J'en profite comme j'ai le micro pour remercier encore Jean-Baptiste et Judith d'être venus ce matin. En plus, sans savoir, t'as pris pour moi, donc merci. plus fort, plus lentement et j'articule. J'y travaille. Encore, je descends encore. Ça va là? Lentement, je vais essayer. Donc en tout cas, merci Jean-Baptiste et aussi je trouve que ça montre l'entraide entre les églises, entre frères et sœurs aussi. Voilà, parce qu'on est l'église locale, mais on est aussi l'église avec un grand E. Et merci aussi d'être une manifestation vivante de ce soutien. Alors, je mets mon petit chrono pour être sûre d'essayer de respecter le temps. C'est vrai que c'est toujours, je le dis à chaque fois, je suis désolée, je me répète. Je râle toujours sur ma mère quand elle se répète parce que j'aime pas ça. Mais au final, on fait toujours ce qu'on critique chez les autres. C'est vrai que c'est toujours une responsabilité, un honneur de partager la parole de Dieu. Donc je veux toujours prendre ça très au sérieux. Ce message, c'est quelque chose que j'ai reçu. En fait, c'était une nuit où j'arrivais pas à dormir ces dernières semaines. Et puis finalement, je me suis retrouvée sur mon téléphone et à chercher. En fait, avec le décalage horaire, je suis tombée sur vous savez, mon école biblique, Christ for the Nation. Et en fait, il y a ce qu'on appelle les Tuesday Night Service. Donc, chaque mardi soir, il y a un invité. Donc, ça continue. L'école biblique existe toujours. Et maintenant, ils mettent tout en ligne. Donc, c'est génial. Je reprofite de certains enseignements. Et je suis tombée sur ce message-là et je l'ai écouté. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Et j'ai eu sur le cœur de vous le partager. Alors, au début, j'étais pas sûre que ce soit maintenant qu'il fallait le partager. J'ai vraiment hésité. Toute la semaine, j'étais en train d'y réfléchir. Et puis finalement, j'avais que ça qui me venait sur le cœur. Et ça a été aussi confirmé par une prière qu'Oscar avait faite il n'y a pas longtemps, sur le fait de ne pas regarder en arrière, mais qu'il fallait regarder en avant si on veut avancer. Un peu à l'image de dans la Bible, quand on laboure un champ, si on veut labourer le champ, on ne peut pas continuellement regarder en arrière, il faut regarder devant. Donc du coup, ça m'a un peu conforté en me disant, je pense qu'on va partir sur ça. Alors, on va prendre, donc si je ne me trompe pas, on va dans ce sens-là. Dans l'autre sens. Bon. Alors, donc on va lire Ésaïe 43, 16 à 21. Ah oui, pardon, je rajoute le fait que effectivement, c'est pas moi qui ai écrit ce message, je me le suis approprié, ce qui a été partagé, et je vous le ramène. C'est la chose que qui m'ont vraiment parlé, que j'ai. J'essaye d'assimiler et que je vous partage. Donc c'est Ésaïe 43, verset 16. « Ainsi dit l'Éternel, qui, à travers la mer, a ouvert un chemin et dans les gros eaux a frayé un sentier et qui fit sortir les chars et les chevaux, l'armée et ses guerriers, ils se sont tous couchés et ne se relèveront pas. Ils se sont consumés, ils se sont éteints comme la mèche d'une lampe. » Alors je suis désolée, j'ai l'impression que ce n'est pas tout à fait la même version. Je pensais t'avoir envoyé, mince. Là, c'est le summer. Tant pis. Mais bon, vous comprenez l'idée. Ce que Dieu nous dit, ce que Dieu dit à son peuple, c'est que même il a vaincu l'armée la plus puissante de l'époque. L'armée égyptienne, c'était pas n'importe quoi. Ils étaient quand même assez balèzes. Mais pour Dieu, c'était pas un problème. C'était pas un souci. Il leur a fait plier le genou. Dieu est grand. C'est un puissant guerrier. C'est Yahvé. Mais ensuite, après ce verset 17, au verset 18, il y a un tournant qui se fait. Ésaïe, il dit, ne vous rappelez plus. Quoi ? Oubliez tout ça ? Ces miracles, ces merveilles, cette délivrance énorme ? Oubliez tout ça. Donc verset 18. Ne vous rappelez plus les événements du passé, ne considérez plus les choses d'autrefois. Alors j'ai pris aussi la version anglaise, avec donc la traduction, qui dit, mais oublie tout ça, ce n'est rien comparé à ce que je vais faire, car je suis sur le point de faire quelque chose de nouveau. Cette traduction me parlait bien aussi. Et cette promesse-là de Dieu, ce n'est pas une promesse du nouvel an qu'on se fait. Vous savez, les bonnes résolutions qui tiennent au mieux un mois ou deux, au pire deux jours. Voilà, ça, c'est une promesse venant de Jésus. C'est pour tous les temps. Il fait toujours quelque chose de nouveau. Verset 19. « Je vais faire une chose nouvelle. Elle germe dès à présent. Ne la reconnaîtrez-vous pas ? J'ouvrirai un chemin à travers le désert et je ferai jaillir des fleuves dans la steppe. Les animaux sauvages, les chacals, les autruches, célébreront ma gloire. Car je ferai jaillir de l'eau dans le désert, des fleuves dans la steppe. Pour abreuver mon peuple, celui que j'ai élu. Je l'ai formé pour moi, il proclamera ma louange. Je suis désolée, est-ce qu'il faut que je le recule un peu parce que les petits paf, ça gêne pas, non, ça va, c'est bon comme ça. Alors, quand Dieu nous amène dans le désert, ça arrive régulièrement dans notre vie chrétienne, c'est éprouvant, c'est fatigant, c'est désagréable. Quand on est dans le désert, par contre, on le recherche, on cherche sa volonté. Mais Seigneur, c'est quoi la suite? C'est quoi ces choses nouvelles dont tu nous parles? Et il nous emmène dans le désert pour qu'on puisse avoir ces échanges et ces réponses. Mais là, parfois, du coup, voilà, on dit « Seigneur, utilise-moi, voilà, que je puisse servir ton royaume. » Et quand on est là dans le désert, finalement, on dit « Seigneur, en fait, non, je suis pas capable. » Donc on lui sort tous nos manques de capacité ou voilà, toutes les bonnes raisons pour lesquelles « Non, il y a erreur de casting, ça va pas du tout. » Mais Dieu ne nous choisit pas pour nos capacités ou pour nos manques de capacités. Il nous choisit, point. Et c'est lui qui ouvre un chemin dans le désert. C'est pas nous. Alors, le pasteur, il a développé quelque chose je vais pas le développer entièrement, mais j'ai trouvé ça intéressant. Personnellement, moi, je l'avais pas encore entendu. On a encore plein de choses à apprendre. Il expliquait que le livre d'Ésaïe, c'est un peu comme un reflet de la Bible, comme un peu un patchwork, mais je sais plus comment le mot utiliser, mais c'est un peu, voilà, un reflet dans le sens où quand la Bible a été canonisée, elle a compilé 66 livres. Parce que là, j'espère que je ne me trompe pas. Et Ésaïe comporte 66 chapitres. Et en fait, le développement est similaire. On retrouve des éléments un peu comme la Genèse, au début des chapitres 1 et 2 d'Ésaïe. Et sur la fin, on voit aussi le même développement un peu que l'Apocalypse, une nouvelle terre, la recréation, etc. Et je trouve ça super intéressant. Je vais personnellement essayer de le développer un peu parce que je trouve ça... j'avais pas encore entendu ça. Et bref. Et en tout cas, c'était important de situer Ésaïe 43. Il se situe dans un contexte de rachat, de restauration et de recréation. Je répète. Ésaïe 43, il est dans un contexte de rachat, de restauration et de recréation. Et il commence avec ça, « Regarde, je vais faire une chose nouvelle, oublie le reste. » Et il faut aussi savoir le contexte dans lequel le peuple d'Israël entend ça. Il entend ça dans un contexte d'exil, dans un contexte où il est sous la contrainte, il est entouré d'ennemis, il est loin de la promesse que Dieu leur a faite, du pays promis. C'est pas un contexte easy, c'est pas fun, mais c'est dans ce contexte-là qu'Ésaïe dit cela. Donc dans nos vies, on a ces temps de désert. On prie. Et c'est toujours le désert. Parfois, on peut se dire que le désert, c'est le résultat d'une conséquence de ce qu'on a fait. Peut-être. Mais même dans ça, peut-être c'est une conséquence, peut-être ça n'en est pas une. Mais Dieu dit, regarde, je vais faire une chose nouvelle. Et même si tu es en exil à cause d'une faute ou quoi que ce soit, c'est « Je suis le Dieu qui crée une voie dans le désert et qui fait jaillir de l'eau. » Donc voilà, le texte commence avec ça. Oublie tout ça, je vais faire une chose nouvelle. Donc on va développer deux points, deux principes. C'est un, c'est oublie le passé, alors dans le sens de ne pas chercher à le recréer, parce qu'on verra quand même le passé à son importance, bien évidemment. Dieu ne se contredit pas. Et l'autre chose, c'est être alerte, être éveillé pour voir les choses nouvelles. Donc, pour le oublier le passé, on ne peut pas regarder les victoires du passé de l'Église, avec un grand E, et essayer de réveiller d'anciens mouvements de réveil. Sinon, on va devenir des musées, alors que nous devons être en mouvement, parce que Dieu fait une chose nouvelle. Oublie tout ça, c'est un nouveau jour, un nouveau mouvement. Alors attention, je tiens à souligner, on honore le passé, on apprend du passé, on est interpellé par le passé. D'ailleurs, la Bible nous y encourage à travers la transmission. Il dit bien d'enseigner aux enfants ce qui s'est passé. C'est important. Mais on doit regarder à l'avenir, car Dieu est en train de faire une chose nouvelle. Et il veut la faire à travers toi. Est-ce que tu le crois? Dieu dit « oublie tout ça ». Il ne parle pas là d'un passé rempli d'erreurs, de traumatismes ou de honte. Il parle d'un passé miraculeux. La traversée de la mer Rouge, c'est pas quelque chose dont on peut avoir honte. En tant que peuple de Dieu, c'est... Ouh, purée, ça nous dépasse. Mais c'est ça, nous il dit oublie tout ça. On ne peut pas réveiller, enfin effectivement, on ne peut pas revivre les réveils du passé. Moi j'aime bien, on avait aussi un cours à l'école biblique sur les réveils, hein, Azusa Street, la réforme, là vous en avez plein. C'est passionnant. et c'est bien de les connaître, mais on ne peut pas les revivre parce que Dieu veut faire une chose nouvelle aujourd'hui, à travers toi, à travers nous. Jérémie 16, 14. Alors, allez, j'y crois. Voilà. C'est pourquoi des jours viennent, l'Éternel le déclare, où l'on ne dira plus « L'Éternel est vivant, lui qui a fait sortir d'Égypte les Israélites ». Mais l'on dira plutôt « L'Éternel est vivant, lui qui a fait sortir les Israélites du pays du Nord et de tous les pays où il les avait chassés. Je les ramènerai dans leur pays que je donnais à leurs ancêtres. » En d'autres termes, Dieu nous dit qu'il ne veut pas qu'on soit bloqué sur le bon vieux temps, qu'on reste bloqué sur le passé et tout ce qui s'est passé. Dieu nous dit qu'il veut faire une chose nouvelle maintenant. Parfois, ce qui peut nous limiter dans ce que Dieu veut faire, c'est justement notre attachement à la connaissance du passé. Pourquoi ? Parce qu'elle peut limiter notre imagination, alors que Dieu ne connaît pas de limites. Il y a des schémas qu'on connaît, et pour nous, en tant qu'humains, c'est confortable de se dire « ça s'est passé comme ça, ça va peut-être se repasser comme ça ». Et donc du coup, on se limite. Et encore une fois, on honore le passé, mais c'est que Dieu, il est tellement grand, tellement créatif, tellement sans limites, qu'on peut pas lui dire « c'est comme ça que tu vas faire un réveil ». Et une chose nouvelle, c'est une chose nouvelle, par définition, quelque chose qu'on ne connaît pas. Dieu peut réaliser en abondance, bien au-delà de tout ce que nous demandons, ou même pensons, et je rajoute, ou même imaginons. Dieu nous a appelés à voir son action et vivre l'Église différemment. Par exemple, aujourd'hui, lorsqu'on vit dans notre Église, on veut rentrer dans une voie missionnelle, il y a quelque chose de différent. On est encouragé aussi, bien sûr, et ça, je sais qu'on le vit dans cette Église, vous le vivez aussi, c'est qu'on est appelé à rentrer dans la mission aussi bien dans notre travail séculier, là où on bosse, aussi bien qu'à l'Église. Le réveil, c'est partout où je vais, partout où je suis. Et le truc, c'est que parfois, je m'attends à ce que ça ait une certaine forme de ce que je connais, ce que j'ai déjà entendu, mais Dieu veut faire une nouvelle forme. Notre génération, et alors là, je ne limite pas ma génération, notre génération, voilà, je dis tout le monde là, on doit répondre à l'appel de Dieu, à l'appel qu'il nous adresse maintenant, à nous. Il évoquait quelque chose d'intéressant, c'est que dans chaque génération, il y a un appel particulier pour les serviteurs de Dieu. Moïse était celui qui délivre. Esther était venue servir le roi. Et si on revient à Moïse, lui, il a confronté le roi. Et si on parle de Jérémie encore, alors lui, il a été un peu considéré comme un peu un traître, dans le sens où, enfin, on va le développer après, mais on cite souvent Jérémie 29, 11, que vous connaissez tous. « Car moi, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. » Mais un truc que moi-même, je n'avais pas forcément réfléchi, est-ce que vous savez de quoi parlent les versets précédents? Parce qu'on prend toujours ce verset, parce qu'il nous fait du bien, il est agréable, il nous booste. Mais qu'est-ce qu'il dit avant? Dieu à travers Jérémie dit au peuple d'Israël, « Tu vas pas retourner à Jérusalem. Et c'est pas maintenant que je vais apporter un renouveau. J'apporte pas non plus un réveil. » C'est paraphrasé, on est bien d'accord. D'ailleurs, en fait, ce que vous allez faire, vous allez acheter des maisons, vous allez vous marier, vous allez avoir des enfants et vous priez pour la paix de Jérusalem. En gros, vous restez là où vous êtes, en exil. Ouh, c'est pas fun. Mais c'est dans ce contexte-là, en disant tu restes là où t'es, même si c'est pas une situation agréable, Dieu dit j'ai des projets en ta faveur, de paix et non de malheur. Quand on est au milieu des ennemis, on n'a pas l'impression que c'est des projets de paix. Et pourtant, c'est ce que Dieu dit là. Donc si on revient sur Jérémie, en fait, il apparaît un peu un traître pour Israël, pour Babylone, enfin bref, pour tout le monde. L'histoire montre que, bien sûr, il a entendu ce que Dieu lui a dit. Mais lui, il ne l'a pas vu. Jérémie n'a pas vu qu'il a été reconnu dans ce qu'il avait dit finalement. Et nous, du coup, aujourd'hui, Peut-être qu'on a l'impression d'aller nulle part et qu'on est dans Babylone. Mais Dieu nous demande d'apprendre à prospérer là où on est, car il crée un chemin dans le désert. Là où il y a pas, on a l'impression qu'il n'y a pas d'espoir, que les choses, quand on regarde un peu le monde autour de nous, ça va pas trop en s'améliorant. Dieu crée un chemin dans le désert. Dieu, il fait jaillir des sources de vie là où on voit que la mort et la destruction. Parce que Dieu, il est le tout autre. Il est celui qui est différent. Il est celui qui a les paroles de la vie. Donc, on ne sait pas comment il va faire. On imagine, on a envie, mais on ne sait pas. Par contre, ce qu'on sait, c'est qui il est. Il ne change jamais. Il est celui qui ne change pas. Les royaumes de cette terre, les pouvoirs, ils viennent et ils repartent comme les vagues de l'océan. Ils ne font que passer. Lui ne change pas. On peut penser que le réveil, il ressemble à telle ou telle chose, sous telle ou telle forme. Une réconciliation familiale, un mouvement politique, des miracles, des prodiges. On ne sait pas. Mais on sait que c'est Dieu qui ne change pas et qui crée un chemin. Peu importe quelle souffrance, dans quelle souffrance vous êtes en ce moment, quelle épreuve vous traversez, ce que Dieu dit, et ce qui est invariable, c'est « oublie le passé, je vais faire une chose nouvelle ». Ça va venir comme une vague et passer. Et le comment il fait le miracle dans votre vie? Comment il fait le miracle à travers vous? Ou dans et à travers l'Église? Le comment il va changer à chaque fois? Mais lui, il est invariable. Dieu ne change pas. Donc le comment peut changer, mais Dieu ne change pas. Donc on ne sait pas ce qui arrive, mais on sait qu'il crée un chemin dans le désert. Il ne nous dit pas le chemin. Il ne bénit pas forcément nos sauts en avant, mais nos pas. Un pied après l'autre, un pied devant l'autre. Et ça, c'est l'obéissance. On peut dire, oui, mais Seigneur, je t'ai fait confiance dans le passé, hier. Ouais, mais c'est aujourd'hui. L'obéissance et la confiance en lui sont des disciplines qui se travaillent chaque jour. Pourquoi ? 2 Corinthiens 5, 7. Parce qu'on marche par la foi et non par la vue. L'obéissance et la confiance en lui sont des disciplines qui se travaillent chaque jour. Encore une fois, je vous le dis, moi je me parle à moi-même en première. Mais je nous encourage à être dans ça. Oublie le passé. Mais parfois c'est dur. Parce qu'on aimerait bien être le prochain Billy Graham, ou Wesley, ou Irving, ou tous ceux qui sont sur cette récapitulation des merveilles qui s'en sont passées. On aimerait bien. Mais non, Dieu il fait quelque chose de nouveau. Il ne fait plus ça. Il expliquait aussi un point intéressant, c'est que ces mouvements étaient un petit peu centrés sur des dons spécifiques. Et là, alors, c'est quelque chose qu'il partage. Du coup, vu ce qu'on vit aussi aujourd'hui, je le partage aussi. C'est que le mouvement qui va venir, il va pas être autour des dons de quelques-uns, mais centré sur le sacrifice de nous tous. Nous tous ensemble. Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui aussi à l'Église, où chacun se lève et c'est tous ensemble. Donc, ce passé, il a été glorieux, merveilleux. Encore une fois, on l'honore. On peut lire et étudier ce passé. Et ça nous fait beaucoup de bien et de voir les prodiges que Dieu a fait. Mais je suis, tu es, vous êtes, le choix de Dieu, pour ici, pour maintenant, roi et prêtre, le travail séculier et le ministère dans l'Église. Dieu fait une chose nouvelle. Ne restons pas bloqués par le passé, car on pense tous à quelque chose de particulier quand on évoque le réveil. Moi, je ne sais pas, par exemple, c'est vrai que le réveil, je pense tout de suite les guérisons et les miracles. Chacun peut penser quelque chose de différemment, parce qu'on a une idée préconçue, parce qu'on fonctionne un peu comme ça. Mais Dieu nous demande, est-ce que tu peux parler de réveil et te souvenir qu'il s'agit de moi? Et comment je vais le faire? C'est secondaire. Toi, tu t'occupes de savoir que c'est moi, le Seigneur, qui va faire une chose nouvelle. Le comment, c'est pas ton problème. Donc le deuxième point, c'est le fait d'être à l'affût de ce que Dieu va faire. Est-ce que tu peux voir la chose nouvelle que je fais? Le Seigneur nous demande. Alors il y a une image qui m'a aussi bien parlé, C'est comme la construction d'un bâtiment. Alors, il y en a beaucoup, hein, vous en avez vu, soit vous en avez vécu, soit vous en voyez, que ce soit autour de vous, des bâtiments qui se construisent, des maisons, même des routes où il y a des travaux. Là, moi, je vois, par exemple, dans ma commune, et on est en train de construire une halle, et pendant des mois, on ne voit rien. Par contre, les ouvriers, ils sont là. Et eux, ils travaillent sur les fondations, ils creusent, ils préparent le sol. Enfin, je ne sais pas tout ce qu'ils font, mais ils font des choses, ils préparent les plans, les machins. Et nous, on passe devant, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais ils foutent rien. Il ne se passe rien, on ne voit pas le truc monter. Qu'est-ce qui se passe? Mais ceux qui travaillent, ceux qui sont sur place, ceux qui y travaillent, ils savent qu'il se passe quelque chose. Et puis nous, bon, on continue de passer devant, on ne voit rien. Puis tout d'un coup, paf, les choses changent. Il commence à y avoir des murs qui montent. La charpente qui se met, tout d'un coup, ça pousse comme pas possible. Mais c'est pas apparu comme ça, en fait. C'est qu'il y a eu tout ce travail en amont, où il travaillait. Mais moi, je le voyais pas, parce que j'étais pas de ceux qui travaillaient. Donc du coup, quand on n'est pas parmi ceux qui travaillent, on rate ce qui se passe. Quand on n'apporte pas quelque chose, on peut juger de loin et croire qu'il se passe rien. Mais Dieu établit son royaume. Et son royaume est toujours en mouvement. Et parfois, ce n'est pas confortable. On aime bien se poser, comme on dit, sur ses acquis et rester là. Ce serait bien si, après le CP, on pouvait se dire que c'était bon, on maîtrise. Mais non, il faut de nouveau se mettre en avant et apprendre de nouvelles choses. Parce qu'on est en mouvement. La vie, c'est un perpétuel changement. Donc, le royaume, Dieu établit son royaume et ce royaume, il est toujours en mouvement. Dieu n'est pas dans l'insécurité. Ou alors en manque de plan. Il a toujours un plan. Le temps présent qu'on vit ne lui est pas inconnu. La pandémie ne l'a pas surpris, l'a pas pris par surprise. Il a un plan. Est-ce que ça, on le croit? La Bible dit que le royaume de Dieu, c'est comme une graine qu'on plante et elle pousse. On ne comprend pas forcément comment, mais ça pousse. Ce n'est pas le péché ou la rébellion qui va arrêter le royaume de Dieu. Il trouvera toujours un moyen de préserver son peuple. Le royaume de Dieu ne peut pas être vaincu. Dieu sait ce qui se passe dans notre monde. Il le voit. Le monde politique, le monde social, Internet, dans l'église, dans l'école, dans nos vies. Il sait ce qui se passe. Mais Dieu a un plan. Est-ce qu'on le croit, ça aussi? Dieu a un plan. Dieu a un plan et l'Église grandit, l'Église naît soudainement. Il y a l'exemple de Joseph, qui est passé de la prison en palace en l'espace de 20 minutes, a priori. Donc, ils ont fait des petites études, ceux qui ont recherché. Je n'ai pas vérifié personnellement, mais j'imagine que ça a pu être rapide, effectivement. En l'espace de 20 minutes, un rêve s'est réalisé. Entre le moment où on l'a sorti de la prison et il a été établi. Parlez-moi d'un changement de vie. Mais toute cette période, bien sûr, il y a eu toute la période avant, où entre le moment où il a été jeté dans le puits et où il est sorti de cette prison, il s'est passé plus de 20 minutes. Mais là, Dieu a testé son caractère. Il a travaillé. Jusqu'à ce qu'il soit temps de réaliser son rêve. Alors j'ai mis quand son rêve, le rêve de Dieu pour son royaume, il l'a exécuté à travers Joseph. Et là, encore un truc qui ne fait pas forcément plaisir, c'est que Dieu ne va pas vous délivrer de quelque chose qui vous rend plus comme lui. Parce que si Joseph, il n'avait pas passé ses années dans la prison, etc., etc., il ne serait pas le Joseph qu'on connaît, qui a pu être le premier ministre du Pharaon. Parce qu'il était, il avait besoin de travailler son caractère. Il était dans l'arrogance, dans moi-je, et puis plein d'autres choses. Mais du coup, Dieu a permis qu'il passe à travers ça pour qu'il soit plus à l'image de Dieu. Et ça a travaillé son caractère. Et ça a travaillé sa relation avec Dieu. Donc, je le répète, Dieu ne va pas nous délivrer de quelque chose qui nous rend plus comme lui. Jusqu'à ce qu'on ait appris la leçon. Pourquoi? Parce que notre formation est plus importante pour lui que quoi que ce soit d'autre. C'est pas mon succès, ma réussite, ma réputation dont Dieu se soucie le plus. Il va se soucier de ma formation, de ma relation avec lui, de ce que je vais être plus semblable à lui. Donc si une situation n'est pas encore bonne, c'est peut-être que Dieu n'a pas fini de faire ce qu'il avait à faire avec vous. avec nous. Romains 8, 28. Désolée maman, je sais que tu en as parlé il n'y a pas longtemps. C'est pas toujours fun non plus. Dieu fait concourir toute chose au bien de ceux qu'il aime. Alors en même temps, on l'aime bien, et en même temps, ah, quand ça va bien, c'est cool, quand ça va mal. Dieu fait concourir toute chose au bien de ceux qu'il aime. Et est-ce que vous savez, dans la version originale, ce que veut dire toute chose? Eh bien, toute chose. Toute. Il n'y a pas de... Sauf ça. Sauf, non, toute chose. Je sais qu'ils t'ont blessé. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je sais que c'est injuste. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je sais que tu te demandes pourquoi tu es dans cette école, ce travail. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je sais que tu ne comprends pas ce que je fais en ce moment. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc préoccupons-nous d'aimer Dieu. Il s'occupera du reste. 2020, Covid. On demande à Dieu ce qu'il fait. Pourquoi ? Ce stop, ça a cassé plein de choses, là, cet arrêt, plus bien sûr les morts, la maladie, les divisions qu'ont causé des discussions autour de ce sujet. Mais pourquoi, Seigneur, t'as permis ça ? Je fais une nouvelle chose, est-ce que ça, tu le vois ? Être capable de regarder à Dieu, et pas juste la tempête, c'est dur, c'est très dur. Hein. Je suis la première à avoir des difficultés avec ça. Je fais une nouvelle chose, est-ce que tu le vois ? Dans l'évangile, alors parfois, alors justement, tu as évoqué les pharisiens tout à l'heure, c'est vrai que parfois on est peut-être un peu dur avec eux. Mais comment ils ont pu louper Jésus ? Bah parce qu'ils étaient comme nous. Ils avaient des idées préconçues sur ce à quoi ça devait ressembler le Messie, sur ce à quoi devait ressembler l'action de Dieu. Comment ils l'ont loupé ? Alors, c'est intéressant de se dire, c'est que, est-ce que vous avez déjà lu l'Ancien Testament ? Et quand on parle de celui qui va les délivrer, Daniel, quand il y a la grosse pierre qui vient et qui détruit la statue qui représente les différents royaumes, ça ressemble à quelque chose qui va tout faire péter, quoi, qui va faire exploser les trucs, quoi. Ça va être... Ouais, sauf que, en tant qu'humain, on voit plutôt, effectivement, on va destroyer l'église, le peuple, enfin, pardon, l'armée romaine, voilà, j'y arrivais, et puis on va faire le ménage, quoi. Ouais, mais non, Dieu, il avait quelque chose en vue de plus fort, de pouvoir détruire la mort, de pouvoir détruire le péché. Et c'est plus énorme, mais le problème, c'est que nous, à notre niveau, on imagine les choses qu'on comprend facilement ou qu'on a déjà vues, quoi. Toutes les guerres de l'Ancien Testament où la victoire était donnée parce qu'il y avait une grosse guerre qui prenait qui avait des victoires. Et voilà. Donc ils ont loupé ça. Et nous, est-ce qu'on n'est pas aussi comme ça ? On a des idées préconçues sur ce qui doit se passer, sur comment ça doit se passer. Peut-être que le réveil va ressembler à quelque chose de différent de ce à quoi tu penses, de ce à quoi tu t'attends. La réformation d'une nation, c'est pas forcément comment on s'y attend. Comment il le fait, ça change toujours. Mais qui il est ne change jamais. Il faut rester attaché à ce qui est vrai de toute éternité. Dieu ne change pas. Quand Dieu nous appelle à quelque chose, on est souvent appelé à traverser le désert. Parce que, pourquoi au final ? Parce que ce serait mieux si on pouvait l'éviter, cette période de désert où on est seul, où il y a des animaux sauvages, où il n'y a pas beaucoup de ressources et tout. Pas parce que ça nécessite une dépendance envers lui. Si tu réponds à l'appel et que ça ne te fait pas peur, si ça ne t'étire pas, eh ben continue de prier, c'est peut-être pas ça. Parce que quand on répond à l'appel, on sait qu'on n'est pas capable. On sait qu'on n'est pas suffisant. Et on sait que la seule chose qui peut faire que ça marche, c'est notre dépendance à lui. C'est notre obéissance, c'est notre confiance en lui. Jour après jour. Parce que ce sera toujours difficile de servir le Seigneur. Parce que ça nous fait sortir de notre zone de confort. Parce que ça nous fait sortir de nos habitudes de compter sur nos propres forces. Ça nécessite, un appel nécessite notre dépendance envers lui. La foi, elle fait confiance dans les capacités de Dieu. L'espérance, elle fait confiance au caractère de Dieu, à qui il est. Et l'amour nous connecte à une intimité à Dieu. On a souvent la foi. On sait qu'il peut, qu'il est capable, qu'il a les ressources, les forces, la puissance pour faire les choses. Mais parfois, on manque d'espérance. On ne sait pas s'il veut. Et on est appelé à travailler ça, à grandir dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour. On a besoin des trois. Et l'amour est le plus grand, et c'est notre intimité avec lui, c'est notre relation personnelle avec lui. Dieu peut faire ce qu'il veut, et l'espoir dit, je fais confiance à qui tu es. Ésaïe 43, de nouveau. J'ouvrirai un chemin à travers le désert, et je ferai jaillir des fleuves dans la steppe. Mais de qui il parle là ? Il parle de Jésus. Il ne nous dirige pas vers un lieu géographique, vers un système politique, mais il nous pointe vers lui. Parce que Jésus, qui il est ? Jésus est le chemin, la vérité et la vie. C'est Jésus. Il est la source de la vie. C'est lui le chemin. C'est lui qui est la source de la vie, les fleuves de vie. Alors c'est beau de ne pas savoir ce qui va arriver quand on a le chemin et le fleuve de vie avec nous. Quand on est avec Jésus et quand on marche avec lui. Peu importe ce qui va arriver, on est avec la bonne personne. Dieu est transcendant, il est au-delà du temps et des circonstances, des contextes, des époques, de l'histoire, même quand nous, on est dans la confusion. Et ce matin, je vous invite à qu'on puisse se tenir debout à ce moment, maintenant, et dire, je garde mes yeux fixés sur Jésus. Je garde mes yeux sur Jésus en traversant ce désert. Dieu fait une chose nouvelle dans le désert. Tu ne sais pas ce que tu dois faire. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas forcément besoin de le savoir. Mais tu le sauras quand tu en auras besoin. On ne sait pas, on n'a pas besoin de savoir. Parce que souvent, si on savait, il y a des chances qu'on ne saurait pas le gérer correctement. Dieu, il fait des originaux. Il est dans l'original, il n'est pas dans la rediffusion. Il fait quelque chose de nouveau. Il inscrit votre vie, il inscrit ta vie, il inscrit ma vie sur le canevas de l'histoire. Il écrit une histoire avec chacune de nos vies. Quelque chose d'unique pour chacun d'entre nous, pour l'Église. Je fais une chose nouvelle. Le vois-tu ? Seigneur, je te remercie parce que ta parole est esprit et vie. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu qui est celui qui fait une chose nouvelle. Seigneur, tu es le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par toi, Seigneur. Et nous voulons chacun grandir, Seigneur, dans cette intimité avec toi, dans cette foi, dans cette confiance, Seigneur, dans cette espérance en toi. Seigneur, merci parce que chacun ici, tu nous appelles. Tu appelles chacun à te servir. Tu appelles chacun à avoir un rôle dans ton royaume, Seigneur. Et que, comme on l'a dit ce matin, on est appelé aussi à s'aimer les uns les autres, Seigneur. Parce que tu es aussi le Dieu des relations. Et Seigneur, que individuellement nous soyons dans un temps de désert ou en église, Seigneur. Tu es celui qui crée une voie nouvelle. Et Seigneur, je prie pour que nous soyons à l'affût, que nous soyons de ceux qui travaillent à ton royaume et que nous puissions voir ce que tu fais et y participer, Seigneur. Que nous ne soyons pas des spectateurs, mais que nous soyons vraiment acteurs de ce que tu fais, Seigneur. Seigneur, que nous puissions être ces flèches que tu envoies, que nous puissions ne pas rester sur le banc de touche, Seigneur. Et que même, voilà, tu nous appelles chacun et que, Seigneur, ça nous fait peur, ça nous bouleverse. Mais que nous puissions répondre oui, Seigneur, me voici, avec ce que j'ai, Seigneur, avec mes 5 pains et mes 2 poissons pour nourrir 5 000 personnes ou plus. Seigneur, je viens et je te donne ce que j'ai. Seigneur, que chacun ici, nous puissions rentrer dans cela, parce que oui, tu fais une chose nouvelle. Oui, tu crées un chemin dans le désert. Oui, tu fais jaillir des fleuves d'eau vive quand nous sommes au bord de mourir de soif, Seigneur. Vraiment, merci, parce que même quand nous ne voyons pas, même quand nous sommes dans la confusion, tu fais une chose nouvelle. Merci pour ta parole qui est vraie de toute éternité. Merci pour être ce Dieu qui ne change pas, sur qui on peut s'appuyer Et Seigneur, aide-nous à déposer nos idées préconçues, à déposer nos façons de voir, et que nous puissions nous saisir de ces nouvelles choses que tu fais. Merci encore, Seigneur, pour ta bonté, ta fidélité. Et viens nous transformer, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.